tout de suite sur Radio Saint-Fé, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores, mais aussi des rendus d'ateliers radio réalisés par Radio Saint-Fé.
Petites Échappées, c'est un peu la petite sœur de notre programme Les Ondes Buissonnières, des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Retrouvez une sélection de programmes créés par nos partenaires, collectivités locales, radios associatives ou toute autre structure ayant créé un contenu que nous décidons de diffuser.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
Cette promenade sonore a été réalisée à partir de la matière enregistrée dans l'atelier radio à plusieurs voix qui se déroule dans les cours de français bénévoles de l'association Accueil demandeurs d'asile. Pendant cette excursion de 45 minutes, soyez attentifs à l'environnement qui nous entoure, au lieu que nous traversons, tout en laissant votre esprit s'imprégner des voix et des ambiances qui sont dans vos oreilles.
Comme question, moi je voulais demander, on peut demander aux Français, ils pensent des immigrants qui ils ont des richesses, mais ils quittent ce pays pour émigrer en France. Qu'est-ce que les Français pensent avec ce sujet-là? Au début, quand je suis arrivé, j'ai demandé à une monsieur où se trouve la remise. Le monsieur, il était français. Il m'a dit, tu vas jusqu'au bout, tu trouveras la remise. Ah, j'ai dit, merci. Après, lui, il m'appelait et dit, monsieur, tu es africain? Tu es immigrant? J'ai dit, oui. Pourquoi? Lui, il m'a demandé, pourquoi je suis là en France? Je me sentis très mal. Jusque maintenant, je n'arrive pas à parler de ce sujet-là. Je n'arrive pas. J'ai dit, mais c'est moi, je suis africain. Après, il m'a dit, mais chez vous, vous êtes riche, mais qu'est-ce que vous faites ici en France? Hein? Chez vous, vous avez des richesses, des minéraux, tout ça. Il connaissait bien l'Afrique. Moi, au début, j'arrivais pas à lui répondre. J'ai resté tout écouté. Il y avait des gens qui étaient en mouvement. Ils nous regardaient. J'ai dit, monsieur, pourquoi tu me parles comme ça, monsieur? Il m'a dit, ça te touche? Je m'excuse, mais c'est pas pour te faire mal. C'est juste que pour vous, pour votre avenir, il faut aller chez vous là, pour vous. Vous avez des richesses, vous avez beaucoup de choses à faire chez vous là, il faut rentrer chez vous. Je dis bien, ok, merci, au revoir. Je pars chez moi. Je me trouvais très mal ces jours-là. Et comme question, moi je voulais demander, on peut demander aux Français, ils pensent des immigrants qui Ils ont des richesses, mais ils quittent ce pays pour émigrer en France. Qu'est-ce que les Français pensent avec ce sujet-là?
Prenons la rue Nicolas-Chaurier sur la gauche pour ensuite tourner à droite dans le chemin des Tournelles en direction de Tim-les-Galapia.
On dit que la RDC, c'est un pays qui est plus riche par rapport aux matières premières au monde. Mais comment maintenant expliquer qu'un pays qui est tellement riche, en même temps, en réalité, c'est un pays très pauvre?
Oui, je pense que le problème du Congo, c'est un problème du gouvernement. Et le gouvernement congolais sont trop ambitieux. Ils ne travaillent pas bien. Il n'est pas organisé le pays. Et je pense que beaucoup de leaders africains sont corrupts. En Afrique, il y a beaucoup de corruption.
En ressources naturelles, vous êtes riche, mais de l'autre côté, en ressources humaines, vous êtes pauvre. Parce que là, vous avez des ressources naturelles, mais qui ne sont pas mises en valeur par les gouvernements, par les autorités. Et ce n'est pas seulement le Congo, mais à peu près la plupart des pays africains sont toujours comme ça. Il y a beaucoup de pays africains qui sont riches en ressources naturelles, mais par la mauvaise exploitation des dirigeants, c'est ce qui fait un peu défaut, c'est nous. Ce qu'elle vient de dire, c'est un peu une réalité, même de nos jours. Le Congo est en train de vivre ce calvaire, avec peut-être la dictature du président qui est en place. Il y a souvent des soulèvements, des manifestations, la guerre continue jusqu'à présent. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement ne travaille pas. Le gouvernement est en place, il y a un président, les ministres sont là, l'Assemblée est là, mais toujours il y a des petits soulèvements à chaque jour, à chaque moment. Ça se dit à quoi? Parce que c'est la population qui se lève par rapport à cette mauvaise gouvernance. Donc, dans ce côté-là, vous êtes riche en ressources naturelles, mais pauvre en ressources humaines.
En tout cas, ce que vous venez de dire, je suis totalement d'accord avec vous. Mais ce que je ne partage pas la même opinion avec vous, c'est le fait de dire que vous avez dit la ressource humaine est pauvre. Dire que la ressource humaine est pauvre, c'est mettre en doute la qualité, la compétence de tous les hommes africains. Là, au moins, je ne suis pas peut-être d'accord avec vous. Peut-être si vous voulez dire, par exemple, que non, l'Afrique, c'est un pays qui ne se développe pas parce qu'il y a des mauvaises autorités, il n'y a pas une bonne gouvernance et tout. Là, je suis totalement d'accord. Mais il y a aussi des gens capables, il y a aussi des jeunes capables, des hommes capables de prendre la leadership de l'Afrique et de bien diriger, notamment en Afrique du Sud, par exemple. On a vu les hommes très forts, les hommes très compétents qui ont tenu l'Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud est aujourd'hui l'un des pays émergents qui ne sont pas beaucoup. Donc l'Afrique du Sud, économiquement parlant, est classée au même titre que le Brésil, la Russie, parce qu'ils sont au nombre de 6 des pays des BRICS.
Sur notre gauche, tournons rue Mirabeau, et ensuite, au bout de la rue, tournons sur la droite.
Certainement, la cause principale n'est pas au pays, n'est pas au peuple. Ça veut dire qu'il est possible que les gens là-bas, normalement, ne savent pas beaucoup de choses, mais la faute ou la raison principale, ça vient de l'État même, ça vient des gouverneurs qui ne sont pas, qui n'ont pas bien éduqué normalement le peuple. À mon avis, Ladin vient de nous dire que la corruption, quand la corruption se trouve dans un pays là, ça veut dire que ça se trouve de l'assommet de pyramide jusqu'à tel niveau quoi. Mais le peuple, dans ce cas-là, reste pauvre. Parce que les gouverneurs, normalement, c'est eux-mêmes qui volent le pays. Le pays-là. C'est eux-mêmes, malgré que le pays est riche, malgré qu'il y a pas mal des ressources naturelles là-bas, mais il y en a des gens, normalement, qui les volent. Ça, c'est certain.
Donc, madame, la situation de la RDC ne vous a pas permis de réaliser vos rêves, en fait?
Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible de réaliser un rêve au Congo. Pour réaliser un rêve, le pays devrait se stabiliser. Après, pour reconstruction, au Congo, il n'y a pas de développement. Quand un pays a développement, c'est un pays qui c'est nécessaire avoir industrie. Travail pour la population. Il n'y a pas, au Congo, il n'y a pas ça. C'est un pays qui dépend de tous les produits et des importations.
Sur la gauche, prenons la rue Louise Drevet.
Vous avez sûrement dû entendre parler du phénomène de la migration, des migrants, les étrangers qui sont là. Selon vous, comment vous expliquez ces personnes-là qui sont notamment sur votre territoire, qui sont en France? Pourquoi ces personnes-là sont là? Quelles sont les informations que vous avez?
Oui, on entend parler de beaucoup de migration et quand on vient en région parisienne, on la voit. Et elle est très diverse et elle est très stigmatisée dans les médias et on nous donne les raisons en fait. On nous dit que c'est des raisons économiques, c'est des raisons de guerre. Il y a peut-être aussi d'autres raisons, vu qu'on ne connaît pas les gens qui migrent, on ne peut pas savoir pourquoi ils sont venus en fait. Et du coup, faudrait peut-être qu'on les rencontre plus souvent. Pour savoir pourquoi ils viennent vraiment en France. Et peut-être qu'il y en a aussi qui viennent comme nous, on va ailleurs. Mais le regard, il n'est pas du tout le même sur les gens qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient. Donc on ne va pas chercher trop loin, en fait.
Enfin, déjà, oui, enfin, je pense qu'on en entend beaucoup parler. Pas toujours, voire assez souvent, enfin, en mal. Après, des informations que je pense avoir, c'est pour plusieurs raisons, bon, déjà des questions d'exil à cause de la guerre ou de la pauvreté, donc à la fois des questions économiques et des questions, de conflit, quoi. Enfin, et j'expliquerai ça en lien aussi avec le fait qu'il y a une domination des pays riches sur un certain nombre de pays de la planète, Il y a aussi des questions géopolitiques avec des interventions militaires, que ce soit de la France, des États-Unis, enfin, voilà, pas mal de pays occidentaux, qui font qu'on crée aussi les conditions du conflit, de la misère sociale, etc.
Traversons au bout la rue Ampère et continuons jusqu'à l'esplanade sur laquelle nous nous arrêterons.
Que pensez-vous des politiques qui font la distinction entre migrants dits économiques et migrants politiques?
C'est une façon de trier les gens assez facilement. C'est-à-dire que c'est d'un côté, en fait, il y a des migrants qu'on va considérer que voilà, bon, eux, on peut les accueillir, et les autres, non, parce que les causes de l'émigration sont peut-être pas considérées par les gouvernements comme légitimes ou comme suffisamment légitimes pour accepter que les personnes s'installent en France. Donc je dirais que c'est une façon de trier un peu les populations migrantes en deux catégories, celles qu'on accepte, celles qu'on n'accepte pas, et que, bon, c'est sans doute assez débile, mais...
Je leur propose d'y aller, en fait, puis de suivre la situation économique et d'y rester. Comme ça, il y aura plus de place ici pour les autres. Voilà.
Selon vous, il y a vraiment une ligne de partage entre la politique et l'économie. Est-ce que les deux ne vont pas de pair pour que ces politiciens fassent la distinction entre migrants politiques et migrants économiques?
Les situations économiques et sociales sont liées à des choix politiques, donc je pense que c'est forcément lié, complètement lié. Et que les situations politiques aussi peuvent s'expliquer par les enjeux économiques, des enjeux d'exploitation de ressources, d'impérialisme, etc. etc. Donc, pour moi, c'est quand même complètement, complètement imbriqué, quoi.
Après, il y a des urgences politiques qui font qu'on est dans l'obligation morale d'accueillir des gens qui sont menacés vraiment de mort imminente, entre guillemets, ou de souffrance. Mais il faut pas une vraie raison pour accepter quelqu'un. Je pense que si, là, il y a déjà une vraie raison. Donc, voilà. Je pense qu'il faut pas distinguer les gens.
Continuons notre chemin en longeant la belle électrique sur la gauche. Traversons le square des fusillés, puis la voie de tram pour tourner à gauche à nouveau.
Mais qu'est-ce que vous faites ici en France? Mais chez vous... Vous êtes riche. Qu'est-ce que vous faites ici en France? Qu'est-ce que vous faites ici en France? Qu'est-ce que vous faites ici en France? Chez vous, vous avez des richesses, des minéraux, tout ça.
Mais pourquoi nous avons dit après tout cela, c'est la France? C'est parce qu'il y a ce lien historique. C'est la langue. Tu peux mieux trouver ton avenir, réaliser ton rêve à partir de la France. Certes, nous avons tous des problèmes en Afrique. Pourquoi on est sorti? C'est parce qu'il y a des problèmes là-bas. Il y a des problèmes qui ne disent pas leur nom. C'est, les gens vont dire la guerre, il n'y a pas la guerre. Ce n'est pas une question de guerre seulement qu'il y a en Afrique. Il y a plein de problèmes. Dans mon pays, il y a la discrimination. Tu ne peux pas vivre. C'est pourquoi on a pris tout ce risque. Tout pour venir là. Nous pensons qu'à partir d'ici, on peut réaliser nos rêves. L'Europe pense toujours à se protéger. Oui. Mais il faut qu'il y ait cette liberté. Un Français, il peut aller là où il veut dans le monde. Il peut aller en Guinée. Il peut circuler comme il veut. Il peut sortir de la Guinée comme il veut. Il peut rentrer comme il veut. Un Français. Un Français. Mais un Guinéen ne peut pas venir en France comme il veut. Il ne peut pas circuler comme il veut. On va lui dire que mais il n'y a rien sur toi. Quand un Français va en Guinée, c'est parce qu'il y a la guerre ici qu'il est parti en Guinée. C'est pas parce qu'il y a la guerre. C'est pas parce qu'il a faim. On n'est pas venu en France pour manger. C'est pas pour manger ni pour dormir en France. C'est pour pouvoir réaliser nos rêves. Nos dirigeants qui sont en Afrique, ils peuvent se déplacer. Ils peuvent envoyer leurs enfants ici en France étudier. Et quand tu as un diplôme français dans mon pays, c'est un écart avec les autres. Toi qui n'as pas cette chance, tu n'as pas tes parents au pouvoir, comment tu vas faire? Tu vas rester comme ça, regarder les gens? Tu vas mourir petit. Au lieu de tout cela, tu vas prendre un risque. Là où nous sommes là, nous tous, nous avons donné notre vie. À qui? Peut-être à nous-mêmes. On a pris des grands risques. Un Français ne peut pas comprendre ça parce que tout ce qu'il a comme support, c'est l'Internet. Traverser les différents pays, Mali, Burkina, Niger, Libye, la Libye, maintenant, ici, c'est inimaginable ce que tu vas voir, ce que on a subi. Mais on accepte, on a pris le risque pour réussir, pas pour commander. Non, c'est pas ça la question. Nous voulons, nous avons nos rêves, nous voulons réaliser les rêves.
Avant le pont, tournons à droite. Nous ferons une pause au coin de cette rue, au niveau de la sortie de la rocade.
Lui, il m'a demandé pourquoi je suis là en France. Lui, il m'a demandé
très mal.
Pourquoi je suis là en France.
J'arrive pas à parler de.
Lui, il m'a demandé
très mal.
Pourquoi je suis là.
Jusque maintenant, j'arrive pas à parler de.
Je me sens très mal.
Jusque maintenant, j'arrive pas à parler de.
Jusque maintenant, j'arrive pas à parler de.
J'arrive pas.
Jusque maintenant, j'arrive pas à parler de.
Jusque maintenant, j'arrive pas à parler de.
J'arrive pas.
Jusque maintenant, j'arrive pas à parler de.
Jusque maintenant, j'arrive pas à parler de.
Comme le monsieur a posé des questions, pourquoi les gens venaient faire ici, et pourtant il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, et il ne peut pas savoir, parce que tous ceux qui passent sur l'émission de télé, et voient ça, mais ce qui se passe réellement dans les pays africains, ne connaît pas ça. Et pourtant, si c'est moi, il a posé la question indirectement, je veux lui répondre directement. Je suis là pour la protection de ma vie. Je ne suis pas là pour regarder le tour Eiffel ou bien de faire. Non. Je suis là un objectif bien déterminé. C'est ma vie qui me reste maintenant. C'est ça que je dois protéger. C'est tout. Avant de poser des questions, donc, faut bien. Parce qu'il y a certaines questions. Quand tu le poses, moi je le trouve, c'est les questions agressives, quoi. Tu lui réponds comme ça se doit, au lieu de. Comment dirais-je, les Français ne peuvent pas savoir tout. Parce que tous les immigrants sont des mêmes objectifs, ou bien sont des mêmes problèmes, ou bien sont des mêmes idées. Non, ce n'est pas ça. Il y a certains ici qui n'ont jamais rêvé à sortir de leur pays. Par exemple, comme moi, je n'ai jamais souhaité de quitter mon pays. Moi, je ne connais pas l'aventure. Mais on ne peut pas voir la réalité au télé. Non, c'est impossible. Il faut que tu passes, tu vas là-bas pour savoir ce qui se passe. C'est ça l'essentiel.
Poursuivons notre chemin. Au croisement, nous tournerons sur la droite.
Jusque maintenant, j'arrive pas à parler de ces sujets-là. J'arrive pas. Jusque maintenant, j'arrive pas à parler de ces sujets-là. J'arrive pas. Pour votre avenir, il faut aller chez vous là, vous là. J'arrive pas à parler de jusque maintenant, j'arrive pas à parler de jusque maintenant, j'arrive pas à parler de vous, aller chez vous là. J'arrive pas à parler de jusque maintenant, j'arrive pas à parler de ces sujets-là. J'arrive pas à parler de pour votre avenir, il faut aller chez vous là, vous là, vous là.
Puis, prenons le cours Beria sur notre gauche.
Vous avez tenté d'aller à un endroit où tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Et pensez-vous que vous serez en mesure de réaliser vos rêves ici en France?
Ici en France, j'avais pas le choix. Je peux dire comme ça. J'avais pas le choix et c'est pour cela que je suis là. Parce que j'avais pas le choix. C'était. Je trouve pas le mot pour dire ça, mais la majorité vient ici parce que ici il y a la liberté d'expression, il y a la loi, tu vois, il protège les gens.
Comment imaginez-vous après 10 ans?
Après 10 ans, je désire pour moi le meilleur, pour moi, que toutes les difficultés que je passe dans ces moments, qu'ils ne soient pas cette difficulté, qu'ils soient vraiment des bonnes choses. J'imagine avoir tout le bonheur. Hein. C'est ça que je désire à moi-même, tout le bonheur. J'imagine passer dans tous les problèmes, dans toutes les souffrances. C'est ça que j'imagine dans 10 ans.
C'est une question de foi, d'être avec une foi, parce que tout de suite là, on ne sait pas comment ça va se passer, mais du coup, pour dire dans 10 ans, si on nous donne de bonnes conditions pour vivre, tout le monde peut vivre pareil comme tout le monde. C'est-à-dire dans 10 ans, si on me donne des papiers, je vais trouver un boulot, trouver une maison, je vais travailler avec une famille, une bagnole. Manger bien, habiller bien, être toujours bien. Ça, c'est qu'imagine après 10 ans, arranger une affaire comme ça pour gagner l'argent et tout. Même pas gagner beaucoup, mais c'est qui est suffisant.
J'ai un rêve. Mon rêve, c'est que je puisse vivre. Pas survivre, mais vivre normalement, que ce soit ici en France, que ce soit en Côte d'Ivoire, que je puisse vivre et réaliser des projets, voyager, voilà. Parce que là, je n'ai pas voulu venir ici, mais j'ai été contraint de venir ici. Ça veut dire que je suis parti pour préserver ma vie, quoi. Donc, voilà. Le rêve que j'ai, c'est de pouvoir repartir, réaliser quelque chose, que ce soit ici ou dans mon pays, en pays d'origine.
Voilà, comment j'imagine ma vie dans 10 ans? Dans 10 ans, je veux être une personne très responsable, une personne comme des grandes personnalités reconnues sur cette terre planète. Et je veux vivre mieux, fonder une belle famille, une famille qui serait débarrassée de tout ce que j'ai connu dans ma vie, la souffrance. Je vais avoir des enfants qui vont suivre des études qui vont eux aussi leur pousser à mériter de cette vie. Parce que quand on tient compte de la pauvreté, c'est très marrant. Donc, je veux que tous ceux qui viendront après moi, dans ma famille, pour ne pas qu'ils vivent les mêmes catastrophes que j'ai vécues. Donc, je veux améliorer ma vie et la vie de tous mes enfants dans 10 ans. Donc, si vous voyez que je suis en train de mener ce combat, c'est par rapport à ça, c'est pour avoir une meilleure vie. Et quand un jour je me retourne dans mon pays, pour que moi aussi, je puisse au moins gouverner, voir comment améliorer la vie de ma population, changer la vie de ma population et leur enlever dans l'ornière et changer leurs difficultés qu'ils sont en train de rencontrer parce que j'ai acquis peut-être un peu d'expérience ou bien beaucoup d'expérience. J'aurai la chance d'améliorer beaucoup, beaucoup la vie de certaines personnes.
Au niveau du restaurant L'Escale Indienne, tournons à droite, rue d'Alembert. Prenons un très court temps d'arrêt devant le centre social 38, sur notre droite encore, puis poursuivons notre chemin.
Ah, bon, la dernière, ça c'est la toute dernière question maintenant. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux plus jeunes pour qu'ils réalisent leurs rêves sans pour autant tomber peut-être dans l'égarement en fait, donc.
Africains ou bien les jeunes français, européens?
Les jeunes d'une manière générale, que ce soit africain, que ce soit français, est-ce qu'il y a une différence pour toi entre les jeunes africains et les jeunes français, soit européens?
Ce n'est pas la différence, c'est parce que quand on dit un rêve, on sait que dans un pays d'Afrique, il y a des pays, il y a des gens qui ont des rêves, mais là-bas, on ne peut pas vivre son rêve parce qu'il y a les autres soucis. J'avais déjà entendu les gens parler ça, ils voulaient être quelqu'un, mais là-bas, il n'y avait pas ce qu'ils voulaient être. C'est pour cela qu'il a quitté son pays pour venir en Europe, parce qu'il y a cette facilité, il y a cette...
Bon, comme vous êtes africain, les conseils que vous pouvez donner aux jeunes africains pour réaliser leurs rêves?
Non, je donne à tout le monde, tous les jeunes. Parce que j'étais jeune, qu'il soit la couleur de la peau, on sait que tout le monde peut passer par là. Pour les jeunes qui ont l'opportunité de faire ces études, qui profitent, parce que c'est bien pour l'avenir. Pour ceux qui n'ont pas moyens, qui continuent de se battre parce que la vie, c'est comme ça. Peut-être avec son force, il faut le croire toujours et il va y arriver. C'est ça. C'est le conseil que je laisse.
Enfin, tournons à gauche, rue Guérin, et arrêtons-nous dans le parc sur la place Saint-Bruno.
Est-ce que vous pensez que selon l'endroit où on est, ça veut dire que selon son origine, un rêve peut varier d'un continent à un autre? Est-ce que vous pensez que l'Africain rêve de la même manière que l'Européen ou l'Européen de l'Américain ou de l'Asiatique?
Je pense que les rêves sont les mêmes partout dans le monde. Après, je pense aussi que les rêves sont conditionnés en fonction de notre éducation, peut-être plus de notre éducation que de notre pays, mais du coup, par exemple, on a des parents qui ont une grosse attente par rapport à nous, on n'aura pas forcément les mêmes rêves. Une grosse attente, j'entends de la pression, hein, par exemple. L'envie d'avoir des rêves, le fonctionnement d'avoir des rêves, je pense qu'il ne varie pas en fonction des continents, plus ce qu'on met dedans. Mais le rêve en lui-même, ça reste un rêve.
Peut-être qu'en fonction des pays, il y a des rêves qui sont plus communément partagés que d'autres en fonction de la situation politique du pays. Par exemple, il y a peut-être des pays où les gens rêvent de sécurité. Je ne sais pas, par exemple, en Syrie, je pense que les enfants qui habitent en Syrie actuellement, leur rêve, ça doit être beaucoup des rêves pour se dire qu'ils ont envie d'être en sécurité. Des pays où les gens, où il y a pas de liberté de parole, les gens rêvent probablement de liberté. Des pays où les gens travaillent énormément tout le temps, ils rêvent peut-être plus les gens d'avoir plus de temps, je sais pas.
Voilà. Est-ce que c'est les chances d'accomplir ces rêves sont pareilles?
Que les chances sont pas forcément les mêmes, mais comme la question c'était sur le rêve lui... Il peut être identique et parce qu'on entend aussi souvent que par exemple les gens qui immigrent, qui s'exilent n'ont qu'un seul rêve, c'est de partir, et finalement il y a d'autres rêves, de vouloir devenir médecin ou Voilà, enfin le rêve, il est pour ça ou footballeur.
Et premièrement, d'abord, je veux aussi dire qu'on ne choisit pas de naître africain, ni on ne choisit pas non plus de naître européen. Donc, c'est un destin, quoi. C'est la destinée. Dieu a fait en sorte que ça soit ainsi. Donc, on ne peut pas faire autrement. Et il faut aussi enlever cette équivoque, cette façon de voir les choses, de croire que tous les migrants viennent ici pour chercher la vie. Tous les migrants viennent ici pour assurer leur avenir. Non, c'est pas ça. Et il y a même beaucoup, comme moi par exemple, je suis Congolais, je peux dire, il y a même beaucoup de Congolais qui étaient dans leur pays au Congo, dans des situations très, très meilleures que la situation actuelle. La situation qu'on est en train de vivre ici en France, par exemple. La vie, c'est pas seulement en Europe.
C'était la promenade sonore Afrique-Europe, le rêve en exil. Merci de l'avoir partagé avec nous. Nous vous invitons maintenant à ouvrir la discussion.
Tout de suite sur Radio Saint-Fé, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores, mais aussi des rendus d'ateliers radio réalisés par Radio Saint-Fé.
Petites Échappées, c'est un peu la petite sœur de notre programme Les Ondes Buissonnières, des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Retrouvez une sélection de programmes créés par nos partenaires, collectivités locales, radios associatives ou toute autre structure ayant créé un contenu que nous décidons de diffuser.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.